Gros dossier dans la presse plus ce week-end qui soulève d'excellentes questions morales et éthiques. On y parle de médicaments offerts au Canada qui sont en vente à des prix exorbitants, 100 000, parfois 500 000, 1 million de dollars plus. Comme société, est-ce qu'on doit payer des médicaments qui coûtent aussi cher? Sinon, on les rend disponibles pour qui? Les enfants seulement, les non-fumeurs seulement, tout le monde, personne, pour avoir la vision d'un médecin. On a invité Michael Bensoussan, gastro-entérologue de l'hôpital Charles Lemoine. Salut Michael.
Salut tout le monde.
Merci d'être là.
Bonne année les amis,
bonne année aux
auditeurs et surtout bonne santé. Je souhaite à tous les auditeurs de ne jamais avoir besoin de me rencontrer, ça me fera plaisir.
Ouais.
Sinon, sur le trottoir, comme ça, à la ville, il n'y a aucun problème pour te rencontrer, Michael, mais on comprend le sens de ton message. Michael, comme médecin, si un médicament existe, mais qui n'est pas disponible au Québec, est-ce que tu en informes ton patient?
Écoute, oui, évidemment qu'on l'informe, parce que l'information, de toute façon, par les temps qui courent, ça ne sert à rien que je la cache au patient, puisque tu imagines bien que quand un patient a une maladie grave, une maladie rare, et que son médecin commence à lui dire qu'il n'a pas de traitement, peu de traitement disponible, la première chose que le patient va faire, c'est d'aller taper sur Google pour ce médicament. Donc, en fait, ça ne sert à rien de cacher la vérité au patient. Ça n'a jamais servi à rien éthiquement, et d'autant moins maintenant que tout est disponible.
Mais maintenant, avant Google, tu l'aurais peut-être caché?
Non, je l'aurais pas caché. Je l'aurais pas caché, mais à partir du moment... Tu sais pourquoi donner aux patients des espoirs alors que ça n'existe pas? C'est une situation, si tu veux, dans ma pratique clinique qui arrive assez rarement, finalement. On dit jamais que le médicament, il est pas disponible ou il n'existe pas. On dit il est pas encore disponible, ça s'en vient, parce que très souvent, le médicament est disponible, que ce soit en Europe, soit aux États-Unis, s'il n'est pas encore arrivé au Canada. En général, ça veut dire que le ministère est en train de réfléchir à rendre ce médicament disponible. Et encore, le rendre disponible, ça ne veut pas dire qu'il sera remboursé.
Justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de connaître un médicament, mais de ne pas pouvoir l'offrir au patient parce qu'il n'est pas disponible au Canada?
Oui. Et il y a même des situations encore plus frustrantes avec des médicaments qui sont disponibles, qui sont remboursés en Europe, qui sont remboursés aux États-Unis et qui ne sont pas remboursés au Canada. Donc ça, c'est le cas. Parce que pourquoi ça se passe comme ça? Il faut quand même que les auditeurs comprennent. Il y a plusieurs acteurs qui sont là-dedans. Il y a les compagnies pharmaceutiques, là, les pharmas, qui font de la recherche et développement pour mettre au point les médicaments. Et évidemment, ils fixent le prix des médicaments par rapport à ça. Mais on ne va pas faire dans l'angélisme. Après, ils fixent aussi des marges pour faire des bénéfices. Et personne n'est là pour pleurer sur les big pharma. Ce sont des compagnies qui font des bénéfices parmi les plus grands bénéfices de ce qui est disponible dans le business. Donc vraiment, c'est des gens qui roulent sur les millions. Mais en même temps, de l'autre côté, il n'y aurait pas les big pharma qui feraient de la recherche, il n'y en aurait pas de médicaments. Donc ce que je veux dire, c'est que le progrès scientifique, l'augmentation de la durée de vie et les découvertes scientifiques qui font que les gens vivent et guérissent de certaines maladies qui étaient mortelles il y a quelques années, c'est aussi la recherche pharmaceutique qui fait là-dedans. Ensuite, il va y avoir les structures gouvernementales qui vont dire « Est-ce que moi, je vais payer pour ça ?» Alors regarde.
En tranche.
Alors regardez. Parlons du Québec, les amis. Le Québec, comme vous le savez, les dépenses de santé représentent 42% des dépenses du Québec, 42% des impôts que vous payez, d'accord ? C'est donc quasiment la moitié. On s'entend, on est en train de parler de la responsabilité de tout un chacun, de tous les impôts que nous on paye. Ok, ça représente quoi les médicaments là-dedans ? La RAMQ rembourse chaque année 5 milliards de dollars de médicaments. On parle de ça là. 5 milliards de dollars en 2018... parce qu'on n'a pas encore complètement les chiffres de 2019, mais enfin, ça va être à peu près ça, c'est 1 milliard de plus, donc 20-25% de plus, que ce que c'était il y a 5 ans.
Et c'est le vieillissement de la population, ça
pas
va...
Pas seulement. Ah, c'est le vieillissement de la population, c'est tous les médicaments, effectivement, qu'on donne, des maladies courantes, diabète, cholestérol, hypertension artérielle, prostate, name it. Mais c'est aussi l'augmentation faramineuse du coût des nouveaux médicaments qui apparaissent. Là, on est en train de parler de ce petit garçon qui avait un médicament qui coûtait 3 millions de dollars, mais effectivement, les traitements qui coûtent plus que 10 000 dollars par an représentent 2% des gens qui sont bénéficiaires de la RAMQ. Donc, les médicaments les plus chers, pour une minorité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur donner. Ça veut dire qu'on est là pour réfléchir à tout ça ensemble, à matin.
Et on en parlera du cas de Zach, qu'on peut lire dans la presse. Ans, ouais. Là, un petit garçon qui avait un traitement qui coûtait 3 millions de dollars.
C'est ça.
Juste pour le traitement. J'aimerais ça savoir... toi, si tu avais été son médecin, comment tu aurais réagi à tout ça?
Il y a beaucoup de premiers soins, les premiers répondants, sur le pont Champlain présentement. Je vous rappelle, c'est fermé et c'est problématique de ce côté-là en direction de Montréal. Si vous pouvez vous rabattre sur une autre option, je vous conseille de le faire. C'était déjà bloqué il y a une vingtaine de minutes jusqu'à Milan. On va avoir un bulletin de circulation.
Ça, c'est le temps que ça prend, là.
Non, mais c'est ça. On va avoir un bulletin avec Michel dans les prochaines minutes. Restez là. On est avec le doc, Michael Bensoussan. On parle de traitement ce matin, mais de jusqu'où la société doit-elle payer pour les médicaments?
On parlait de Zach. Zach, c'est un traitement contre l'amyotrophie spinale, donc une maladie terrible où les parents voyaient leur enfant qui avait les muscles et les nerfs qui ne fonctionnaient plus. Un enfant qui...
Petit garçon de 3 ans
qui se rendait paralysé et qui allait sans aucun doute mourir sans avoir ce médicament-là qui coûte donc 2,8 millions de dollars. Ils avaient commencé à faire du crowdfunding, etc. Et moralité, Zach a eu le médicament parce que il a fait partie, le laboratoire qui fait ce médicament, Novartis Company, a fait comme une sorte de loterie et avait décidé de distribuer ce médicament dans le cadre... Il y avait une loterie, mais à 100 enfants malades. Mais tu peux aussi avoir ce genre de médicament dans le cadre d'un essai clinique. C'est-à-dire que quand le pharma a fini de développer le médicament, ils vont évidemment l'introduire chez l'homme. Et pour le valider, ce médicament, on organise des essais cliniques où on donne ce médicament versus un autre, ce médicament versus un placebo.
Tu deviens un cobaye, là, dans le fond.
Ben, quelque chose comme ça. Mais enfin, toute la science, tous les canons de la médecine par l'épreuve, l'evidence-based medicine fonctionne comme ça avec des essais cliniques. T'es pas vraiment un cobaye parce que les cobayes, c'est quand on a essayé le médicament avant chez des animaux, chez des porteurs sains, etc., chez des patients sains, etc., etc. Donc, lui a eu ce médicament gratuitement comme ça et les parents sont heureux et se sentent bénis. Mais
c'est il aurait pu avoir un placebo, il aurait pu avoir un autre médicament dans le cadre du protocole.
Exactement.
Là.
Mais vous me demandiez comment nous, ça se passe comme médecin. Ben nous, quand on sait qu'il y a un traitement comme ça qui est disponible, on va se battre évidemment pour nos patients pour qu'ils aient ce médicament-là. Nous, on va évidemment devoir demander à la RAMQ. On fait des demandes de médicaments d'exception, c'est comme ça que ça s'appelle. La plupart des demandes d'exception passent. Les chiffres, c'est que l'année dernière, à la RAMQ, il y a eu environ 38 000 médicaments qui ont été acceptés en exception. Mais il y en a aussi presque 20 000 qui ont été refusés.
Et là, je t'entends parler de demandes de médicaments d'exception. Est-ce que c'est de la paperasse? C'est le genre d'affaire qui peut durer jusqu'à ce que le patient finalement...
Ouais. Et c'est ça qui est terriblement frustrant, c'est que toi, tu es dans ton lit avec un patient potentiellement qui souffre. Par exemple, moi, je suis gastro-entérologue, des patients qui sont en poussée de maladies inflammatoires, donc qui ont de la fièvre, qui ont mal au ventre, qui ont de la diarrhée, il y a du sang qui sort. Enfin, c'est vraiment
une
situation très difficile. Bonjour tout le monde. Et puis, toi, tu es là et on te dit oui, la RAMQ est en train de réfléchir. Alors, on va faire une procédure accélérée. Ça prend 2 jours, ça prend 3 jours. Mais quand tu as quelqu'un qui est devant toi, qui souffre, ça prend 2-3 jours. Alors après, tu dois aussi passer parfois par la commission de ton établissement, qui est un comité de pharmacologie, qui va venir se réunir et décider si c'est l'hôpital qui va rembourser le médicament, la pharmacie de l'hôpital qui va te donner ce médicament-là. Mais là encore, ça prend des jours.
On se bat,
les acteurs de santé, pour nos patients, évidemment.
Je comprends ce combat-là, Michael, mais excuse-moi de jeter un peu un pavé dans la mare. On n'est pas capable de tout payer non plus, comme société.
Alors ça, c'est de l'autre bord. T'as raison, Martin. Prenons l'exemple ensemble, mes amis, de la sclérose latérale amyotrophique et de la décision qu'a prise la ministre Danielle McCann l'année dernière à ce propos-là. Il y a 300 de nos auditeurs au Québec qui ont la sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot, la SLA, qui est une maladie dégénérative neurologique terrible au pronostic, sans jamais aucune porte de sortie, mortelle. Bon, il y a un médicament qui existe. Ce médicament-là prolonge la vie de plusieurs années de ces patients. 2 ans, 3 ans, 5 ans,
quand même.
À peu près. Bon, c'est un médicament qui coûterait environ 60 millions de dollars au Québec pour 300 patients. Danielle McCann a dit non. Elle a dit, si c'est pour prolonger des patients, comme le dirait la science, la littérature, de 3 ans, nous, Québécois, nous n'avons pas les moyens de donner 60 millions de dollars. Alors la question qu'on doit se poser en tant que société, c'est celle-là. Combien ça vaut la vie humaine? Combien vaut un an de vie humaine? Combien vaut un an de vos proches? C'est sûr que quand ça vous touche, vous... Ça n'a pas de prix, mais en tant que société, encore une fois, ça représente à peu près la moitié de vos impôts. Ouais. C'est des questions qu'il faut se poser. Et le changement de dogme de notre période, il est celui-là. Pour moi, médecin, la vie, ça n'a pas de prix. Pour la plupart des gens non plus, mais ça a l'air qu'en 2020, la vie, ça a un prix.
Merci, Michael. On ne tranchera pas le débat ce matin en tabarouette, mais ça nous fait réfléchir. Merci beaucoup, Doc, c'est apprécié.